Vous écoutez
RMC.
Solution incluse et activable gratuitement pour les titulaires de BNPNet professionnels. Voir détails des conditions et tarifs sur mabanque.pro.bnp-paribas.
7h59, très grande chaleur, Géraldine.
Alors qu'on a battu hier la journée la plus chaude du mois de mai, eh bien le record va encore être battu aujourd'hui. 8 départements en vigilance orange canicule sur le nord-ouest, 20 autres départements sont en vigilance jaune. On n'avait jamais eu aussi chaud aussitôt dans la saison. Donc des températures qui ont dépassé encore les 20 degrés sur la façade ouest cette nuit. Cet après-midi, on attend 36 degrés à Auch, 35 pour Bordeaux, Brest, Nantes ou encore La Rochelle, 34 à Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Strasbourg, 33 pour Grenoble, 32 à Marseille ou à Reims, 31 à Lille et un petit, si je puis dire, 27 degrés pour Ajaccio. Et ça va continuer. Demain, il fera un tout petit peu moins chaud sur les côtes de la Manche et sur le Finistère. D'ailleurs, le Finistère sortira demain à 6h de la vigilance orange canicule. En revanche, ailleurs, ça va rester très très chaud jusqu'en fin de semaine. Il faudra attendre dimanche pour sortir de la canicule.
Il est 8h. Très belle journée à l'écoute d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Autrement dit, on a eu chaud hier, on aura encore plus chaud aujourd'hui. De nouveaux records de chaleur attendus pour la reprise du travail et le retour à l'école. Le gouvernement évoque ce matin 7 décès en lien avec cet épisode de chaleur. Vous allez voir que ce n'est toujours pas le retour à la normale dans les TGV après la pagaille. Toute la journée d'hier, cette nuit encore sur l'axe sud-est. Et c'est donc sous une chaleur de plomb que va se terminer le premier tour à Roland-Garros avec le grand retour de la Française Loïse Boisson. Souvenez-vous, surprise la saison dernière.
Le ministère de l'Éducation conseille aux écoles de fermer les volets si possible pour faire face à la chaleur.
Oui, parce que les années se suivent et se ressemblent et on fait encore le constat cette année que beaucoup d'écoles ne sont pas adaptées aux fortes chaleurs, là qu'on connaît en ce moment. La preuve ici, à Nantes, dans un des 8 départements, donc en vigilance orange pour la canicule, avec Rachel Sadodine qui s'est rendue dans une salle de classe où les enfants vont étouffer aujourd'hui.
Au fond d'une cour où l'on peine à trouver de l'ombre, un bâtiment à la façade quasi entièrement vitrée que nous ouvre cette enseignante préférant rester anonyme.
On arrive dans la salle qui est à l'étage, vraiment la salle où les élèves ont du mal à supporter la chaleur ainsi que leur enseignante.
Exposition plein sud, pas de volets extérieurs, aux fenêtres seulement des rideaux très fins. Résultat,
il n'y a pas d'air qui circule parce qu'elles ne peuvent pas faire vraiment de courant d'air, sachant que les fenêtres sont en oscillo-battant.
Si on va voir sur le thermomètre, il fait combien ?
Oh, j'imagine qu'il fait une trentaine de degrés et ça sans élèves. Oui, 30.
Les enseignants réclament depuis plusieurs années des pare-soleils aux fenêtres, mais n'ont obtenu qu'un petit ventilateur. Alors, les parents, eux aussi, font ce qu'ils peuvent. Clément a quelques astuces pour rafraîchir sa fille de 10 ans, Juliette.
Des brumisateurs à emporter dans le cartable le matin, des bouteilles d'eau fraîche. On les envoie parce qu'on ne va pas non plus leur faire rater l'école, mais c'est vrai qu'on n'est pas très serein. Ils sont dans des classes de 28, c'est inquiétant quoi, de laisser des enfants... avec une telle chaleur toute la journée.
La chaleur touche aussi les collèges et lycées. D'après le SNES, syndicat du secondaire, 90% des établissements de Loire-Atlantique ne sont pas adaptés à ces épisodes de forte chaleur.
Et alors ce matin, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, évoque 7 décès en lien avec cet épisode de chaleur, dont 5 noyades. Il y en a eu 3 encore hier en Seine-et-Marne et dans le Finistère. Et la ministre des Sports, Marina Ferrari, à l'instant demande sur RMC aux Français d'être vigilants sur les horaires qu'ils choisissent pour pratiquer une activité sportive. Alors, c'est pas du tout le retour à la normale ce matin dans les trains sur l'axe entre Paris et le sud-est de la France. C'est toujours la conséquence d'ailleurs de la journée d'hier quand 2 TGV sont tombés en panne au nord de Lyon à cause d'un défaut d'alimentation électrique. Ça, c'est un classique, des fortes chaleurs provoquant des retards sur tous les autres trains de la ligne, comme le dernier qui est arrivé cette nuit vers 5h du matin, imaginez un petit peu, à Paris, gare de Lyon, avec 12 heures de retard donc, et des conséquences évidemment pour la journée qui commence. C'est ce que disait ces voyageurs au micro RMC de Philippine Boulet.
Bon, la nuit de sommeil forcément elle était courte. Hein. On a dormi un peu avec la lumière tamisée dans le train, mais bon, c'est pas suffisant. Je ne sais pas encore si je pose le télétravail ou si je vais poser un RTT pour récupérer. Ouais, voilà.
Il y avait une heure de retard, puis 2 heures. En fait, toutes les demi-heures, ça s'est rallongé. Le relais a fermé à 21h. Le distributeur automatique, les boissons avaient été prises d'assaut. Et la machine à café ne fonctionnait pas. Il a fallu effectivement attendre d'être dans le train pour enfin avoir une bouteille d'eau.
C'est presque une nuit blanche quand même. Et je me lève dans... une heure, ça va être difficile. Je vais m'accrocher. Aujourd'hui, télétravail, hein. J'ai pas la force de faire 2h30 de transport. Force majeure. Je suis déjà fatiguée avant de commencer ma journée.
Alors ce matin, il y a encore énormément de retard. On parle déjà d'une à deux heures de retard pour les tout premiers trains du matin au départ de Paris, au départ de Marseille également. La SNCF, de son côté, nous parle au téléphone. On leur a téléphoné. Ils nous parlent d'adaptation, mais ça présage encore d'une journée compliquée. Alors c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron lui va parler électricité aujourd'hui à l'Élysée. Le président recevra en fin de matinée près de 200 acteurs de la filière électrique pour les inciter à investir encore plus au moment où on parle avec insistance de la transition vers l'électrique. C'est ça, Cyprien Pézeril.
Oui, le constat est simple. La France produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme, de l'énergie excédentaire exportée qui pourrait être utile à l'économie française, décarboner ainsi la consommation et gagner en indépendance. Emmanuel Macron souhaite que les entreprises accélèrent la transformation, moins d'hydrocarbures et booster le passage à l'électrique, résume l'Élysée. Davantage de bornes de recharge de voitures sur les parkings de supermarchés, plus de pompes à chaleur pour les logements ou encore des industriels qui adaptent leurs usines. Ce rendez-vous ce matin ne sera pas seulement une réunion de bonne volonté, jure un conseiller d'Emmanuel Macron. Alors que certains reprochent au président un bilan trop léger, à moins d'un an de son départ, il veut apparaître comme le capitaine de ce qu'il appelle l'équipe de France de l'électricité. Lui qui promettait en 2022 que ce quinquennat serait écologique ou ne serait pas.
Deux adolescents de 15 et 16 ans sont toujours en garde à vue ce matin à Rennes dans l'enquête sur la mort d'un autre jeune de 11 ans qui a été retrouvé avec une serviette de bain nouée autour du cou sur les rives de la Vilaine. C'était dimanche après-midi où un témoin les avait vus tous les trois en train de pêcher. C'est sans doute un différend sur le réseau social TikTok. Motif fut-il donc qui serait à l'origine du meurtre d'un jeune de 17 ans en fin de semaine dernière en Seine-et-Marne. Pierre Bazin du service police-justice à RMC. Un suspect a été mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation.
Oui, selon les enquêteurs, une amie de la victime aurait en effet refusé d'ajouter l'adolescent suspect sur le réseau social et cela aurait alors donné lieu à plusieurs appels téléphoniques tendus entre le mis en cause et la victime, tous deux âgés de 17 ans. Et c'est finalement dans un camping de Seine-et-Marne que les adolescents décident de se retrouver le soir même pour en découdre. Le suspect, armé d'un couteau et accompagné d'un complice, retrouve la victime et deux autres jeunes femmes. Très rapidement, les premiers coups pleuvent. Selon le procureur de la République, la victime reçoit plusieurs coups de poing avant d'être poignardé au niveau du thorax. Interpellé et placé en garde à vue, l'adolescent suspect a reconnu avoir porté un coup de couteau dans un accès de colère, mais il nie avoir eu l'intention de tuer la victime. Le parquet précise enfin que le mineur, mis en cause, est déjà connu de la justice pour des faits de violence et de port d'armes.
Les prix du pétrole en baisse de 5% cette nuit sur les marchés, malgré les frappes américaines qui ont repris dans le sud de l'Iran. Et alors tiens, l'Iran qui va délocaliser son camp de base au Mexique plutôt qu'aux États-Unis pour la Coupe du Monde du mois prochain, la Coupe du Monde de foot, c'est confirmé depuis hier soir. Est-ce que Nice jouera encore en Ligue 1 la saison prochaine? Il y aura le match aller du barrage Ligue 1 Ligue 2 contre Saint-Etienne ce soir à 20h45, on vivra ça sur RMC, mais sans les supporters niçois interdits de déplacement chez les Verts. Tiens, ce sera la fin du premier tour aujourd'hui à Roland-Garros, sous une chaleur de plomb, on l'a dit, au lendemain des adieux de Gaël Monfils qui a perdu hier. Il y aura 9 Français en lice aujourd'hui. On suivra avec attention notamment la pépite de 17 ans, Moïse Kouame, face au Croate Marin Cilic. Ce sera un des premiers matchs de la journée. Et on va revoir aussi Loïs Boisson. Vous vous souvenez, la demi-finaliste surprise de l'année dernière qui a enchaîné les blessures et qui marche un peu moins bien cette saison, Julien Taxis.
Oui, car elle a enchaîné les pépins physiques depuis l'an dernier. 6 mois d'absence pour des blessures au quadriceps et à l'avant-bras. Loïs Boisson n'a repris la compétition qu'au mois d'avril, mais assure qu'aujourd'hui tout va bien.
Depuis peu, je suis enfin à 100%. Je suis en forme, mais je sais que je manque de rythme, je sais que je manque de match, mais je sais aussi que maintenant j'ai tout pour les enchaîner. Donc, c'est juste une question de temps.
Avec une seule victoire en 5 matchs cette saison, Loïs Boisson peut-elle de nouveau rêver d'une épopée? La réponse d'Alizé Cornet, manager des équipes de France féminines.
Moi, je pense qu'il faut arrêter de s'inquiéter pour tout et pour rien. Ce qui est bien, c'est qu'elle a eu une victoire à Strasbourg, et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien mentalement. Et après, le reste, on va pas écrire l'histoire avant le tournoi, on va juste la vivre à fond, les gars.
Optimisme partagé par la directrice du tournoi et ancienne numéro 1 mondiale Amélie Mauresmo. La magie, pour elle, peut de nouveau opérer.
Sur quoi elle doit compter aussi, c'est son feeling. C'est on joue bien quand on se sent bien dans un tournoi. C'est chaque année d'essayer d'y revenir avec ces sensations-là de l'année passée.
Pour son entrée en lice, Loïs Boisson défiera la tête de série numéro 22, Anna Kalinskaya. En cas de défaite, elle se retrouverait aux alentours de la 150e place au classement.
Alors, il y aura 4 Françaises en lice aujourd'hui. Les 4 dernières, pour l'instant, il n'y en a aucune qui est qualifiée pour le deuxième tour. On les suivra à partir de 11h sur RMC et sur notre radio digitale 100% terre battue.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel de Chypre, Emmanuel, les Français sont de plus en plus attachés à leur centre-ville. C'est centre-ville qui retrouve une nouvelle dynamique.
Oui, absolument. Il y a d'abord ce 11e baromètre du centre-ville et des commerces publié par le programme Action Cœur de Ville. Les Français sont de plus en plus nombreux à fréquenter leur centre-ville, à fréquenter leur marché.
Ils reviennent.
Ah, ils reviennent. Moi, j'étais stupéfait par ce chiffre sur la fréquentation des marchés. 53% des Français déclarent se rendre au moins une fois par mois au marché. C'est 14 points de plus qu'en 2023. Donc ça, c'est pas neutre. Et puis, ces centres-villes, ils redeviennent plus dynamiques. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu focalisé sur les mauvaises nouvelles qui viennent, mais de secteurs particuliers, comme l'habillement, avec effectivement toutes les marques qui ferment. Mais la réalité, c'est qu'on a tout un tas de commerces qui sont en train d'inverser la tendance à la désertification. On a un taux de vacances commerciales, par exemple, dans les villes moyennes. Vous savez, c'est ces fonds de commerce qui sont vides, qui ne trouvent pas pleineur.
Ces fameux bails à céder inscrits sur les murs.
Exactement. Bah, on était à 14-15% à la fin des années 2010. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 12%. On a des chiffres du ministère de l'économie qui montrent une progression des ventes de tous ces commerces de bouche deux fois plus rapide qu'avant la crise du Covid. Il y a une augmentation des ouvertures de boucheries, de poissonneries, de boulangeries, de supérettes de quartier. Il y a de plus en plus de professions libérales. Il y a beaucoup de créations d'entreprises de proximité aussi qui viennent revivifier ces centres-villes.
Comment on explique ce retour, ce redressement des centres-villes?
D'abord parce que la population revient en centre-ville aujourd'hui. Elle revient habiter au cœur des villes. Alors c'est lié à des politiques publiques plus actives, notamment le programme Action Cœur de Ville qui a bien fonctionné dans des villes comme Roubaix par exemple. Il y a des changements d'habitude qui ont été provoqués ou accélérés par le Covid. Le Covid, ça a généré une forte demande de proximité. Ça a donné un coup de vieux au modèle du tout périphérique. Et puis
du tout périphérique, du tout voiture aussi.
Du tout voiture. Et puis le paradoxe, Apolline, c'est que l'essor du e-commerce, ça favorise le centre-ville, parce que quand vous habitez en centre-ville et que vous utilisez le e-commerce, c'est facile. C'est plus facile qu'avant, finalement, d'être approvisionné. Vous n'avez plus besoin de aller faire vos courses à la périphérie. Vous faites livrer. Alors après, ça peut être effectivement les petits colis, fameux petits colis chinois, etc. Mais toujours est-il que c'est plus facile. Le télétravail aussi a favorisé les centres-villes qui donc redeviennent un peu plus désirables que ce qu'ils étaient il y a quelques années.
C'est une très bonne nouvelle. Les chiffres du jour, comme chaque jour.
Le gazole, la détente qui se poursuit gentiment. On est à 2,11 € le litre. On perd à peu près un petit centime par jour. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Le sans-plomb 95, il n'augmente plus, mais on est sur un plateau très élevé, un plateau record d'ailleurs à 2,04 € le litre. Le pétrole, allez, un petit coup de pression ce matin après les frappes américaines, mais on est toujours sous la barre des $100 le baril à 98. Et puis le gaz, pareil, petit coup d'arrêt à la baisse après la forte baisse du week-end à 46 € le mégawattheure, mais on était à 52 il y a une semaine.
Merci Emmanuel, il est 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant, Arnaud Demanche vient nous rejoindre à 8h30. Le face-à-face, notez-le, mon invité, c'est le procureur du parquet national financier, Pascal Prache. Sa parole est rarissime. C'est lui qui est chargé de lutter contre la grande délinquance économique et financière. L'affaire Édouard Philippe, Dominique de Villepin, Rachida Dati, mais aussi Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy, tout ça, ce sont des affaires liées au parquet national financier. Il a beaucoup de dossiers très chauds et il est en direct pour répondre à mes questions à 8h30. Juste après, il y aura Face à Canteloup, Nicolas Canteloup en direct à 8h50. Restez bien sur RMC, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 sur RMC, et comme tous les jours, Arnaud Demanche est avec vous.
Mais oui, comme tous les jours à 8h15.
Oui.
C'est tous les jours, c'est dans le titre. Oh. Bonjour à tous, bonjour à Pauline. Ce matin, il fait chaud, je suis assommé, je suis mort. Voilà. Non mais c'est fou ce truc. On n'a pas du tout envie de bosser. Hein. Je sais que dans la tête d'Apolline, ce matin, ça a été le coup d'envoi de la période. Non, pas comme tu veux, je suis désolé. Au boulot, il y a le procureur du parquet national financier à interroger. C'est pas de bol, les températures sont caniculaires. En plus, ça devrait augmenter. Moi, je supporte pas la chaleur. Je vous préviens, il est même possible que demain, je fasse cette chronique torse nu. Voilà. Oh. Et ben, vous mettrez des lunettes de soleil. Voilà. Vous mettrez des lunettes de soleil pour éviter d'être ébloui. Ce sera pas drôle, ce sera beau et élégant. Première canicule de l'année, donc en mai, il a fait 36 degrés à Nantes, 35 degrés à Bordeaux, 9 degrés en Bretagne. Vraiment, ça va mal finir. Rendez-vous compte.
Ah non, justement.
À Brest, on voit plus un seul pingouin. C'est fou. Les températures sont assommantes. On dirait un discours de Le Cornu. Moi, j'ai demandé au médecin de RMC, le docteur Aurel Gage, si c'était pas dangereux des chaleurs comme ça. Et il m'a répondu, si, si, grave. Regarde, j'ai chopé un coup de soleil sur mon biceps. Mais je le soigne. Comme ça, beau gosse. Et tes patients à l'hôpital, Aurel. Merde, je les ai oubliés sur la terrasse. Alors, si vous avez trop chaud,
oui.
Mon petit secret, pour rafraîchir l'atmosphère, en soirée, vous vous mettez au milieu des invités et vous déclarez « Moi, j'y crois pas trop à cette affaire Bruelle. Je pense qu'elles exagèrent. » Et là, la clim, 2 degrés, d'un seul coup. Et...
Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, est à Taïwan pour leur apporter son soutien face à la Chine.
Tremble, Xi Jinping. Olivier Faure est venu défendre Taïwan. C'est notre James Bond à nous. C'est l'agent 007%. Attention, ça peut quand même avoir des répercussions importantes. Xi Jinping peut mourir de rire déjà, oui, en entendant cette info. Olivier Faure, il a même pas réussi à faire la paix avec Boris Vallot. Alors, entre la Chine et Taïwan, c'est un peu comme si Paul Mirabel proposait un bras de fer à, je sais pas, n'importe qui en fait. Même Elise Moon, ça marche. Alors, c'est donnant-donnant comme rendez-vous. De son côté, Taïwan a proposé de reconnaître l'existence du Parti Socialiste, ce que même Emmanuel Macron refuse de faire depuis 10 ans. Non mais ils ont des points communs. Taïwan lutte contre un autocrate puissant et belliqueux, Chine. Olivier Faure, pareil, Mélenchon. Et la Chine menace d'envahir Taïwan. Est-ce que ça va nous impacter, nous, ça? Parce qu'on a boycotté le gaz russe à cause de l'invasion de l'Ukraine. Si on doit boycotter tout ce qui vient de Chine, ça va être plus compliqué. On va boycotter quoi ? Tout ! Tous les objets ! Remarquez, c'est l'occasion de relancer notre production industrielle. Nous aussi, Apolline, nos enfants peuvent faire des iPhones.
Tout à fait.
Les enfants français sont pas plus bêtes que d'autres. Voilà. Ils sont capables d'assembler des composants électriques. Si on leur donne la bonne formation, c'est très possible. Alors les enfants, si vous nous écoutez, eh ben, demandez à papa et maman de vous inscrire à l'usine. L'usine, c'est formidable quand on y va. On n'est pas obligé d'aller à l'école et on fabrique des jouets, des téléphones, des PlayStation, tout ce que vous aimez bien. Vous avez même le droit d'en garder un à la fin du mois. C'est comme si vous travailliez dans l'atelier du Père Noël. Alors vite les enfants, tous à l'usine. Ceci était un communiqué du MEDEF et du ministère de l'Éducation nationale, mais surtout du MEDEF.
L'écologiste Sandrine Rousseau propose de renommer les steaks des, je cite,
oui,
cadavres d'animaux sur les menus des restaurants.
Et pourquoi pas ?
Et ouais, voilà.
C'est vrai que ça aurait une autre gueule. Top Chef, ça aurait une autre allure avec Philippe Etchebest, vous voyez, qui est toujours vénère. Alors, t'as préparé quoi ?
Me tapez pas, monsieur. J'ai voulu revisiter un cassoulet toulousain.
Mais enfin ! T'as pas entendu Sandrine Rousseau ? On dit plus cassoulet toulousain, on dit cimetière de canard, cadavre de porc et saucisse de cochon crevé, et c'est légumineuses qui font péter. C'est ça qu'on dit. Alors, on va faire un petit jeu qui va faire plaisir à Mathieu Béliard,
oui,
cuisinier maison. Je vous donne l'intitulé d'un plat version resto de Sandrine Rousseau et vous devez retrouver ce que c'est à l'origine.
Wow.
Vous êtes prêts?
Déjà.
Attention, attention, c'est parti. Organe filtrant marin, servi vivant dans leur habitat avec une pointe de citron.
Des huîtres.
Des huîtres.
Des huîtres.
Ça marche aussi, ça marche aussi.
Ça sort les ours.
Ça marche aussi.
Ovule de poule cuit et son émulsion grasse finement moutardée.
Œuf maillot.
Agglomérat de restes de boue de charogne de poulet et sa panure gourmande.
Nuggets.
Des nuggets. Il est fort, hein. Il est fort. Boyau garni de morceaux broyés de muscles de porc décédés sur
le
son
boudin.
Lit de...
Non, l'andouillette.
Le boudin, c'est la saucisse au sang. Amas de mollusques ébouillantés vivants à la vapeur et au vin blanc.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une bouillabaisse?
Non.
C'est... Attends, des moules?
Des moules.
Ah oui, des moules, bien sûr.
Crématorium convivial.
Oh, attention. Surprise.
Non, crématorium. Oui, barbecue, elle l'a eu, Géraldine, bravo. Bravo à tous, bon appétit, hein, par ailleurs. Et à demain, bravo Mathieu, quand même. Bravo.
C'était Arnaud Demange, qu'on retrouve évidemment tous les jours en podcast et en tournée partout en France, à Nice, à Épinal, à Gaillac, au Garric, à Reims, à Avignon, à Toulon ou ailleurs. Un spectacle RMC. Justement, on continue notre tour de France. On s'arrête en Charente-Maritime, à Saint-Sauveur de Nice, avec Thierry. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour. Attends, je te parle.
Allez.
Oui, bonjour.
Vous êtes arrêté, Thierry, tout va bien?
Oui, je me suis arrêté il y a 2 minutes.
Thierry, vous êtes couvreur et vous vouliez parler pompe à chaleur, mais quand même, couvreur déjà par ce temps, alors, comment vous faites?
On s'adapte. En fait, je travaille dans les. Ça fait 15 ans que je travaille dans les sociétés qui font l'amélioration de l'habitat, donc couverture, okay. isolation, pompe à tout le tintouin.
Tout le tintouin.
Le monsieur est. Votre
qui est venu défendre les pompes à chaleur tout à l'heure, à 7h10.
Il est un peu rêveur parce que. L'État va encore, avec la prime Rénov et tout ça, l'État va encore donner des aides, ce qui est un peu, je trouve, normal. Mais plein de gougnafiers vont s'y engouffrer. Et vous croyez qu'ils vont aller servir où leurs pompes à chaleur? Ils vont pas les acheter en France, ils vont les acheter en Chine.
Oui.
J'ai déjà vu quelques cas. Les gars, ils partent le dimanche soir de la région parisienne. Ils ont un 19 tonnes et, ils font des clients sur toute la France, mais c'est les pompes à chaleur, elles sont pas françaises. Les panneaux photovoltaïques, c'était pareil. Au début, moi, je bossais dans une société qui posait des panneaux. Il y avait des aides. Effectivement, on mettait du Systovi, qui était un assemblage français avec des cellules chinoises, mais il y avait une partie française. Maintenant, les trois quarts viennent tous de Chine. Donc, le monsieur est un peu rêveur. Moi, je dis que les aides devraient être accordées à ceux qui posent du Made in France.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. quand il dit non, mais on est capable de le faire. Et puis on avait Cyril qui bosse aussi dans le secteur, qui disait oui, mais enfin regardez, une des plus grosses marques françaises, elle est en train de d'être rachetée par une entreprise américano-japonaise. Donc en effet, ça ne sera plus français.
Exact. Et le client, je suis désolé, par les 38 cours, ben, il regarde son portefeuille. Oui. Si vous avez le
du moins cher,
2 000 euros moins cher, eh ben il va faire comme moi, pas toujours comme ça, mais il va aller généralement au moins cher.
Il va aller au moins cher. Les aides devraient être effectivement beaucoup plus corrélées à la question du Made in France. Merci beaucoup Thierry. Attention à la chaleur, ça va, vous vous en sortez?
Ben on boit, on s'arrose, on se pose. Ouais. Ce qui est chiant, c'est qu'on travaille plus lentement, puis on risque de se brûler avec les tuiles et les zingues.
Ouais,
mais on s'adapte, ne vous inquiétez pas.
Bon, alors prenez soin de vous. Merci Thierry, en tout cas, d'être passé par le 32-16. Thierry qui nous appelait de Charente-Maritime. Il est 8h23. Dans un instant, le face-à-face. Et mon invité a une parole rarissime. Il est le procureur du parquet national financier. C'est lui qui enquête notamment sur Édouard Philippe. C'est lui qui enquête sur les détournements de fonds, sur Dominique de Villepin, le procès Rachida Dati, Nicolas Sarkozy ou encore l'inéligibilité de Marine Le Pen. Tout cela, c'est lié aux enquêtes du parquet national financier. Les réponses de Pascal Prache, c'est dans un instant sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Pascal Prache.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Votre parole est rare. Vous êtes le procureur du parquet national financier. De très nombreuses questions à vous poser. Je voudrais simplement remonter le fil de ces quelques derniers jours et des prochains. Mardi dernier, 19 mai, on apprenait qu'un juge d'instruction allait enquêter sur Édouard Philippe pour des retournements de fonds publics. Mercredi, le 20 mai, ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Dominique de Villepin, là encore, pour détournement de fonds publics. Jeudi, le 21, le palais de l'Élysée était perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour favoritisme. Parallèlement, il y a Nicolas Sarkozy qui est en ce moment même jugé en appel de sa condamnation sur les soupçons de financement libyen. Marine Le Pen qui saura le 7 juillet si elle peut se présenter à l'élection présidentielle. Tout ça, d'une manière ou d'une autre, c'est le parquet national financier. Au fond, c'est vous qui faites ou qui défaites la politique?
Surtout pas, Madame de Malherbe, surtout pas. Parce que, en fait, le rôle du parquet national financier, d'abord, c'est avant tout de faire respecter la loi, d'appliquer la loi. Vous savez, le parquet national financier est composé de magistrats du parquet, donc notamment pas de juges d'instruction. Les juges d'instruction n'appartiennent pas au parquet national financier. Et ces magistrats du parquet sont là pour appliquer la loi qui est votée par les députés, les sénateurs et qui représente la souveraineté nationale. Et le parquet national financier, dans cette dimension-là, se borne à exécuter la loi. D'ailleurs, nous avons prêté serment, nous magistrats, d'appliquer la loi, et c'est ce que nous faisons.
Vous comprenez évidemment, ma question est provocante, mais au fond, on se dit qu'il n'y a quasiment pas un candidat à l'élection présidentielle qui vous échappe, enfin, dans les principaux, et cette fois-ci comme les précédentes. Qu'est-ce que ça invite chez vous comme réflexion? je crois que nos politiques sont tous pourris, ou alors au contraire que précisément, on est dans une démocratie où on peut tous juger, et évidemment avec la question du calendrier électoral.
Alors surtout pas, on peut absolument pas dire effectivement qu'il y a un positionnement des hommes politiques ou des femmes politiques qui nous conduira à considérer qu'ils sont ainsi tous susceptibles d'être inquiétés, ça n'est pas vrai. Et je crois au contraire que le rôle du parquet national financier, précisément en faisant respecter la loi, est de s'assurer de procéder à un certain nombre de vérifications qui nous permettent, dans un certain nombre de cas, d'identifier que telle ou telle procédure ne tient pas, ou que telle ou telle procédure est susceptible de donner lieu à des poursuites. Et d'ailleurs, je voudrais aussi préciser un point, parce que vous l'évoquiez en préambule, le parquet national financier ne traite pas de toutes les affaires que l'on appelle affaires politico-financières. Par exemple, quelques-unes des affaires que vous avez citées ne relèvent pas du parquet national financier, mais du parquet de Paris. Et par ailleurs, nous savons aussi que nous sommes confrontés en période préélectorale, et nous l'avons en tête, de même que vous, sans doute, je pense, dans la sphère médiatique, nous sommes aussi confrontés en période préélectorale, potentiellement, à des tentatives d'instrumentalisation de l'autorité judiciaire. Et il est impératif que nous soyons, nous, très attentifs lorsque des faits sont portés à notre connaissance par des plaintes, par des signalements ou par le travail journalistique que vous menez. Nous sommes amenés donc à faire un certain nombre de vérifications avant d'ouvrir des enquêtes. Et ça n'est pas parce que nous ouvrons une enquête que mécaniquement il y aura derrière une poursuite. L'objectif, c'est de procéder encore une fois à des vérifications. Et si à la sortie, nous considérons qu'il y a matière à classement sans suite, eh bien nous procéderons à un classement sans suite. Ou alors une poursuite si nous considérons...
Mais vous comprenez bien évidemment, et on va prendre le temps de regarder dans le détail un par un chacun des cas que je viens d'évoquer pour comprendre aussi ce qui peut être reproché et quelles sont les peines encourues. Mais évidemment, vous parlez du calendrier. Le calendrier, on est à un an de l'élection présidentielle. Quel est l'impact pour vous? C'est-à-dire, au fond, soit vous ouvrez une enquête, et évidemment, même si, comme vous le dites, une enquête ne veut pas forcément dire qu'à la fin, il y aura condamnation, ça jette la suspicion dans un moment politique. Soit vous ne le faites pas en vous disant, c'est pas le moment parce qu'il va y avoir les élections présidentielles. Et dans ce cas, vous pourriez ensuite vous voir reprocher de ne pas avoir enquêté sur ceux qui pourraient être élus.
Je crois que c'est exactement la problématique à laquelle nous sommes confrontés. En premier lieu, je ne pense pas que ce soit l'ouverture d'une enquête qui jette la suspicion. Parce qu'une enquête, elle est déclenchée sur la base d'une plainte, sur la base d'un signalement, ou encore une fois, sur la base d'investigations journalistiques. On l'a fait encore récemment, en début d'année, par exemple, sur l'Epstein Files. Donc, c'est un sujet sur lequel, évidemment, nous sommes amenés à nous positionner, mais dans une perspective, encore une fois, de vérification. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, il faut que la loi avance, parce que, encore une fois, nous avons prêté serment, et nous sommes là pour appliquer la loi, mais nous sommes aussi dans un système où nous sommes particulièrement attentifs au débat électoral, parce que nous sommes des citoyens et nous ne pouvons pas l'ignorer. Et donc l'objectif, lorsque nous déclenchons des investigations, encore une fois aux fins de vérification notamment, eh bien c'est de pouvoir aller suffisamment vite pour que les décisions d'orientation soient prises le plus loin possible de l'échéance électorale.
Ce parquet national financier que vous dirigez désormais, donc vous êtes le procureur, il a été très largement critiqué par un certain nombre de politiques. Nicolas Sarkozy avait parlé d'une justice politique rendue avec haine, ça c'était plus large. Marine Le Pen avait dit du parquet national financier qu'il allait, je cite, à l'encontre de notre état de droit. À propos de l'élection de 2017, elle disait c'est un parquet politisé dont les magistrats sont choisis, je le crois, en partie sur des critères politiques qui sont toujours les mêmes. Voilà ce qu'elle disait du parquet national financier. Et à propos de la campagne de 2017, elle disait pendant l'élection présidentielle, comme par hasard, ce sont précisément les deux candidats qui pouvaient accéder au second tour qui ont vu se déclencher contre eux les foudres du parquet national financier. Elle parlait de François Fillon et d'elle-même.
Je crois qu'il faut rappeler à nouveau, une fois de plus, que le parquet national financier travaille sur la base des éléments qui sont portés à sa connaissance, qu'il est composé de magistrats qui ont prêté serment, qui sont là pour appliquer la loi avec impartialité, parce que c'est un sujet absolument essentiel et consubstantiel à l'action des magistrats. C'est une règle déontologique majeure que nous portons quotidiennement. Et le deuxième point, et j'insiste encore là-dessus, c'est qu'il faut se souvenir dans quelles conditions le parquet national financier a été créé en 2013. Et c'était notamment à la suite de l'affaire Jérôme Cahuzac. Et je crois que nos concitoyens sont aussi très attentifs à ce que le principe d'égalité des citoyens devant la loi soit préservé et soit protégé. Et le parquet national financier est là également, toujours dans un principe de contradictoire, dans un principe de travail à charge et à décharge, pour mener les investigations qui permettent aussi de démontrer à nos concitoyens que précisément ce principe est préservé. Et je crois que plus généralement, le parquet national financier, en travaillant ainsi, de cette manière-là, encore une fois avec impartialité à charge et à décharge, concourt à la solidité du pacte républicain.
Pascal Prache, je le rappelle, vous êtes le procureur du parquet national financier. Les deux dernières affaires, ça remonte à la semaine dernière, Édouard Philippe ou Dominique de Villepin. Édouard Philippe va donc faire l'objet d'une enquête menée par un juge d'instruction pour harcèlement moral, favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et concussion. C'est donc la conclusion que vous avez actée à l'issue de cette enquête qui a donc conduit à la nomination de ce juge d'instruction. De quoi s'agit-il ?
Je crois qu'il faut d'abord repréciser des choses concernant là, c'est de la situation notamment d'Edouard Philippe, puisqu'il n'est pas la seule personne visée par cette plainte qui était déposée fin 2023. Une enquête préliminaire a été diligentée par le parquet national financier et en 2025, alors que nous orientions vers la clôture de cette enquête préliminaire et vers une prise de décision, est-ce que nous allions poursuivre ou pas et qui est-ce que nous allions poursuivre, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la victime et à partir de ce moment-là par le plaignant et à partir de ce moment-là, l'ouverture d'un formation judiciaire est automatique. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'un magistrat instructeur a été désigné dans ce dossier. C'est désormais lui qui va diriger l'enquête. Donc c'est un point.
Quand vous dites automatique, ça veut dire que, en quelque sorte, vous voulez prévenir toute critique qui pourrait être faite d'une forme d'acharnement. Acharnement, c'est un mot qui revient régulièrement, notamment dans la bouche des avocats de Nicolas Sarkozy à propos de la justice qui ferait preuve d'un acharnement. Là, vous dites c'est automatique, c'est la procédure.
C'est la procédure, c'est-à-dire que nous n'avons même pas eu le choix de savoir si nous allions ouvrir une information judiciaire ou pas, c'est la loi. Et donc la loi s'est appliquée en l'espèce, comme d'habitude.
Quel sera le calendrier de cette enquête-là ?
C'est une question qu'il faudrait poser aux magistrats instructeurs, aux juges d'instruction qui ont été saisis. Mais je crois, en tout état de cause, nous serons, nous, très attentifs à notre niveau et en fonction des responsabilités que nous avons, à ce que les investigations aillent aussi vite que possible. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que sur un certain nombre de dossiers, et notamment les dossiers en matière économique et financière, ce sont des dossiers qui revêtent une certaine complexité et donc qui nécessitent du temps.
Quand vous dites le plus vite possible, j'imagine que vous avez évidemment en tête le fait que dans un an, c'est l'élection présidentielle, qu'Edouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle, qu'il est en campagne, et que donc, quand vous dites le plus vite possible, est-ce qu'il est envisageable qu'il soit jugé avant ?
Je crois que nous n'en sommes absolument pas là. D'ailleurs, peut-être d'ailleurs qu'il ne sera pas mis en examen. Nous n'avons aucun élément en le sens. C'est encore une fois le magistrat instructeur, le juge d'instruction, qui est en charge du dossier, qui décidera quelle orientation il souhaite donner à son enquête.
Et quel que soit le calendrier, c'est-à-dire que on peut se retrouver dans un mois, dans deux mois, dans six mois, voire même un mois avant l'élection présidentielle, avec un Édouard Philippe qui potentiellement, bam, tout d'un coup est mis en examen.
C'est au juge d'instruction de décider la manière, encore une fois, dont il souhaite diriger son enquête. J'insiste sur ce point. Ce n'est pas que je souhaite pas vous répondre. C'est parce que, mécaniquement et juridiquement, c'est le juge d'instruction qui dirige.
Alors, j'ai bien compris. Vous êtes en train de nous dire, en fait, juridiquement, il a son propre temps, qui est le temps de la justice, qui est le temps de l'enquête. Mais est-ce qu'il va se dire, est-ce qu'il y a une sorte de règle morale tacite existe ou non? Peut-être allez-vous me dire que c'est totalement inapproprié qu'il se dise, je sais pas, moi, que six mois avant l'élection présidentielle, il y a une sorte de on gèle tout et on se dit qu'on met personne en examen qui soit candidat. Ou est-ce que ça, c'est totalement farfelu comme idée?
Non, je peux absolument pas vous en dire plus. Vraiment, j'insiste sur ce point.
Mais il n'y a pas, en tout cas, vous ne vous retiendrez pas, ni vous ni le magistrat instructeur, il n'y aura pas de retenue à l'idée de mettre en examen potentiellement un ou une candidat à l'élection présidentielle.
Je crois que le sujet, ça sera encore une fois celui de l'application de la loi, mais en essayant aussi, comme j'évoquais un instant, de faire en sorte que les investigations aillent suffisamment vite pour ne pas percuter directement le calendrier électoral autant que possible.
Est-ce que vous pouvez nous dire tout de même un mot de ces investigations ? Quel est le chef possible d'inculpation ?
Je peux absolument rien vous dire là-dessus parce que pour qu'il y ait une mise en examen, il faut que vous avez listé d'ailleurs des infractions qui apparaissent dans ce dossier qui concernent encore une fois potentiellement plusieurs personnes. Il faut vérifier point par point.
Une ancienne adjointe, au moins, d'Edouard Philippe.
Absolument. Il faut vérifier au point par point si les infractions tiennent sur chacune d'entre elles. Et donc, il est beaucoup trop tôt pour déterminer si ce serait.
Une ancienne adjointe à qui on reproche précisément d'avoir eu en quelque sorte une double casquette. C'est à peu près ça l'idée, si j'essaye de résumer, je crois, pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire à la fois, effectivement, adjointe et en charge de la dépense du budget qui avait été alloué à une structure.
C'est essentiellement fondé sur l'attribution de subventions, effectivement, avec des possibilités de mise en cause au regard des règles de la commande publique. Mais encore une fois, c'est l'information judiciaire qui doit nous permettre d'y voir plus clair. Et j'insiste sur ce point. Je crois que le principe, d'une part, d'efficacité de l'action judiciaire et d'application de la loi doit s'appliquer. Et on sait par ailleurs quel principe de présomption d'innocence. Et c'est aussi au magistrat du parquet que je suis, qui est également garant des libertés individuelles, de le rappeler.
Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà la réponse d'Edouard Philippe.
Mais très bien, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus et je pense que l'objectif en tout état de cause, quel que soit le positionnement des uns et des autres, c'est que la justice avance avec sérénité, encore une fois, dans la perspective de l'application de la loi.
Je précise qu'Edouard Philippe citait Jacques Chirac. Dominique de Villepin, lui aussi, est donc l'objet désormais d'une enquête du parquet national financier, notamment au vu de deux statues de Napoléon qu'il aurait reçues alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, l'une d'une valeur de 50 000 euros, l'autre de 75 000 euros et qu'il n'a fini par rendre que récemment alors que ces statuts ont été décriés par la presse.
Nous sommes dans un cas de figure qui est différent procéduralement du cas de figure que nous évoquions à l'instant, puisque là c'est à la suite notamment d'articles de presse, d'investigations journalistiques, que nous avons choisi d'ouvrir une enquête cette fois-ci qui est une enquête préliminaire, donc qui est bien dirigée par le parquet national financier, qui n'est pas confié à un juge d'instruction. Et cette enquête préliminaire a vocation, comme je l'évoquais tout à l'heure, à procéder à un certain nombre de vérifications. Les faits sont-ils constitués ? Représentent-ils une infraction ? Sont-ils prescrits ? Et donc c'est à l'issue de ces investigations que nous choisirons quels sont les éléments qui peuvent être retenus ou pas. Et je crois encore une fois que l'objectif de ces vérifications, et vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, c'est aussi de pouvoir renseigner nos concitoyens et peut-être lever le poison du doute, c'est une formule qui a pu être utilisée parfois, ou au contraire considérer qu'il y a matière à poursuite, mais en tout état de cause, ne pas laisser en suspens une interrogation sur la probité.
Sur quelle infraction est-ce que vous enquêtez là ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait être reproché ?
Nous serions potentiellement sur des faits de détournement de fonds publics ou de recel de détournement de fonds publics. Donc, encore une fois, nous en sommes à ce stade, sachant que ce sont des qualifications qui peuvent évoluer au cours de l'enquête.
Est-ce que aujourd'hui, un ministre en exercice peut recevoir des cadeaux d'une telle valeur ?
Mais c'est un vrai sujet, évidemment, qui se pose. Et d'ailleurs, il me semble que désormais, des règles déontologiques assez strictes existent au sein notamment des cabinets ministériels ou au sein des ministères. Je crois que nous sommes là aussi pour vérifier dans quelles conditions des cadeaux sont susceptibles d'être faits ou pas. Parce que derrière, nous avons quand même un sujet majeur qui est celui de la confiance de nos concitoyens dans la classe politique notamment, et en tout cas dans les élus et celles et ceux qui dirigent le pays.
Quand on offre des statuts d'une telle valeur à un ministre, on les offre au ministre ou on les offre à l'homme ?
Eh bien, nous verrons bien ce que diront les investigations en l'espèce.
Et elles seront quand, les investigations ? Là encore, je pose la même question que pour Édouard Philippe. Dominique de Villepin n'est pas officiellement candidat, mais il l'est de plus en plus. Même calendrier, dans un an, c'est les élections. À quelle vitesse allez-vous avancer dans les enquêtes ?
L'objectif, vous l'avez compris, je l'évoquais tout à l'heure, c'est d'aller suffisamment vite pour que, encore une fois, notre calendrier judiciaire, sur lequel nous n'avons pas toujours une totale maîtrise, parce qu'il y a les services d'enquête, il y a le positionnement des différents acteurs qui font que ce calendrier peut évoluer en permanence. L'objectif est de faire en sorte que nous puissions avancer dans des délais les plus raisonnables, mais je serais sans doute assez déplacé aujourd'hui de donner des dates précises, ça ne correspond pas à la réalité. L'objectif, encore une fois, c'est d'être réactif, dynamique sur la conduite de l'enquête, de façon à pouvoir éclaircir les choses.
Lorsque Marine Le Pen dit c'est un parquet politisé, lorsqu'elle dit qu'en 2017 l'élection a été largement chamboulée au minimum par les enquêtes du parquet national financier, là il y a la date du 7 juillet, alors ce n'est plus vous aux manettes, mais la date du 7 juillet pour savoir si oui ou non Marine Le Pen pourra se présenter. Est-ce que la manière dont le calendrier électoral et le calendrier judiciaire sont à ce point imbriqués, quand même à un moment ou à un autre, pèse sur vos décisions de magistrats ?
D'abord, je voudrais rappeler tout de suite que, notamment sur le dossier auquel vous faites référence, notamment le dossier concernant Marine Le Pen, ce n'est pas un dossier du parquet national financier, c'est un dossier du parquet de Paris. Le deuxième point, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire que nous sommes sur une ligne de crête qu'il faut trouver en permanence. D'une part, si le parquet national financier ne se mobilise pas pour traiter telle ou telle procédure, eh bien, une partie sans doute de nos concitoyens considéreront que le PNF ne joue pas son rôle, et alors que c'est encore une fois l'objectif qui lui a été assigné lorsqu'il a été créé, c'est-à-dire de faire respecter la loi et de veiller au respect de l'égalité des citoyens devant la loi. Et si par contre le parquet national financier, et c'est typique des questions évidemment que vous évoquez aujourd'hui, le parquet national financier agit, on viendra dire qu'il vient percuter le calendrier électoral. Je crois qu'il faut redire que le PNF, comme les juges d'instruction qui ne sont pas au PNF, mais les juges d'instruction notamment du tribunal judiciaire de Paris, sont là tout simplement pour faire ce pourquoi ils ont été nommés, c'est-à-dire appliquer la loi, et bien évidemment essayer de le faire lorsque nous avons la possibilité de le faire, notamment en termes de maîtrise des délais d'enquête, pour que le calendrier judiciaire impacte le moins possible le calendrier électoral.
Y a-t-il d'autres dossiers sur lesquels vous travaillez en ce moment et dont on n'aurait pas connaissance et qui pourraient eux aussi, à un moment ou à un autre, avoir une conséquence politique ?
Vous savez, je crois que c'est l'occasion aussi de rappeler que on entend souvent parler du parquet national financier en lien avec les affaires politico-financières. Le parquet national financier, c'est 750 procédures, c'est-à-dire 40 à 50 dossiers par magistrat, ce qui est énorme, ce qui est bien plus que ce qui était prévu initialement, qui est sans doute trop aujourd'hui, absolument. Et il faut savoir garder présent à l'esprit que la part que représentent les élus, quels qu'ils soient, les élus, notamment les élus, nous sommes confrontés à des situations qui concernent des maires assez régulièrement, est entre 5 et 10% des dossiers que connaît le PNF. C'est dire à quel point le parquet national financier travaille très largement sur des dossiers qui ne concernent pas des élus.
L'affaire Epstein, un mot pour dire que vous aviez été saisi, vous aviez ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée à propos d'une société offshore immatriculée aux îles Vierges, détenue en partie par Caroline Lang. Il y a eu des perquisitions en février. Est-ce que cette enquête avance?
Cette enquête avance, de même que d'autres d'ailleurs, qui sont en lien avec les Epstein Files, et d'ailleurs aussi avec de l'entraide pénale internationale, singulièrement avec, par exemple, sur un des dossiers avec les Norvégiens. Oui, ce sont bien sûr des procédures qui avancent, parce que ce sont des procédures dont nous nous sommes saisis sur la base des investigations journalistiques et qui font apparaître que des vérifications très significatives doivent être menées.
Solidarité internationale, dites-vous, ça c'est un des points aujourd'hui sur lesquels vous avancez. Avec tous les pays, on a parlé récemment de la question de l'Algérie, d'enquêtes qui devaient être menées ensemble, de retrouver une forme de confiance des deux côtés. Est-ce que c'est le cas?
Oui, aujourd'hui il faut savoir que quasiment un dossier sur trois du parquet national financier nécessite de l'entraide pénale internationale et que donc, notamment dans ce cadre-là, nous avons été amenés à échanger avec les autorités algériennes, les autorités judiciaires algériennes qui souhaitent pouvoir récupérer un certain nombre de biens qu'ils considèrent comme avoir été financés par de la corruption en Algérie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons échangé avec les autorités judiciaires algériennes lors d'un déplacement récent.
Vous étiez?
Absolument. Et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de rappeler que nous sommes très attachés au parquet national financier à la notion aussi d'efficacité de la réponse judiciaire. Il faut quand même savoir que depuis sa création, le parquet national financier a jugé plus de 700 personnes et a permis à l'État de récupérer plus de 12,5 milliards d'euros.
C'est dans les temps actuels, on peut dire que c'est toujours utile.
Mais je crois que dans les temps actuels, c'est toujours utile. Et quand on se souvient qu'un dossier sur deux du PNF concerne des affaires de fraude fiscale, eh bien, je crois que nous sommes au rendez-vous.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin. Pascal Prache, vous êtes procureur du parquet national financier. Vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup débarque avec toutes ses imitations.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Pascal Prache, le procureur du parquet national financier, était mon invité. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, souhaitait réagir. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Balherbe.
Oui.
Oui, c'est moi, Gérald Darmanin. B.A.D.I.E.D. Mais détendez-vous, Madame Balherbe, ça va bien se passer. Oui, j'ai écouté attentivement Pascal Prache, le jeune et brillant procureur du PNP.
PNF.
Non, c'est le PNP. C'est le parquet national financier.
Ah oui.
celui qui traite, tout le monde l'a compris autour de cette table, qui a des journalistes, c'est évident, monsieur Debad, monsieur Chypre, monsieur Bureau, bien sûr, celui qui, bien sûr, traite toutes les affaires financières. Bref, en un mot, celui qui traite toutes les malversations concernant les finances publiques. Et j'ai bien compris, bien sûr, que l'enquête qui touche Édouard Philippe est une enquête importante, une enquête qui était d'ailleurs un passage obligé pour monsieur Édouard Philippe.
Oui, enfin, pour être sûr qu'il soit blanchi avant de se lancer à la présidentielle.
Non, mais écoutez, blanchi ou pas, peu importe pour Édouard Philippe. L'essentiel, c'est qu'il y ait une affaire au cul. Ben, vous savez que chez nous, à droite, il n'y a pas de carrière possible sans avoir sa petite affaire judiciaire. Ce ne sera pas le premier et pas le dernier, certainement. Regardez, Nicolas Sarkozy, Patrick Bacadi, François Pillon. Bisortefeu. Et aujourd'hui, voilà, Édouard Philippe.
Voilà. Il y a eu une perquisition à l'Élysée aussi, quand même, dans le cadre de l'attribution du marché des panthéonisations. Chaque panthéonisation coûte 2 millions d'euros.
Non, mais écoutez, sur ce sujet, on ne va pas bégoter quand il s'agit de nos grandes figures françaises. Prenez par exemple l'exemple de Madame Bey.
Madame Bey.
Vous connaissez Madame Bey?
Madame Veil.
Non, pas la maman d'Abib Veil, l'entraîneur de l'OM. Non, je parle de Simone Veil.
Ah oui, Simone Veil, bien sûr.
L'avortement. Voilà. Bon. Simone Veil, pardon, mais Simone Veil, on n'allait pas lui faire une panthéonisation au rabais. On n'allait pas acheter, je sais pas, des chipsters, de l'oasis et des apéricubes pour faire un petit cocktail. Non, non. Et bâcler la bise en bière dans une caisse en sapin. Non. Alors, oui, on aurait pu faire, c'est vrai, de substantielles économies si on avait confié le marché à monsieur de Ligonnès pour qu'il l'enterre sous une terrasse. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on honore l'écran de notre République? Je ne le crois pas, madame de Malherbe.
Merci beaucoup, monsieur Darmanin. Monsieur le ministre.
Mais détendez-vous, madame Malherbe. Vous voyez, l'interview est finie, tout s'est bien passé.
Merci, Gérald Darmanin. Sans plus attendre, on retrouve Marc-Olivier Fogiel pour les titres
actuels. Ouais, salut à Pau, salut à Pau. Alors, ce petit week-end prolongé, Apolline, t'en as profité pour aller à Roland-Garros, je suis sûr, j'espère en tout cas.
La sorte.
Non, même pas Non, donc t'aurais dû, parce que si tu voulais voir des Français maintenant, c'est trop tard. Allez, c'est parti pour les titres. Il fait chaud, mais tout le monde ne s'en plaint pas. La canicule ravit les joueurs français à Roland-Garros. Et oui, ça leur fait une nouvelle excuse pour expliquer leur défaite. Et puis hier sur RMC, Louis Sarkozy s'est déclaré favorable à la GPA, la gestation pour autrui. Son père, en effet, est l'un des premiers de la GPA, l'un des pionniers de la GPA. Ben si, demandez à Claude Guéant, hein, il lui a bien refilé le bébé. Hein.
Merci à tous. Allez, la maison du général de Gaulle est à vendre. Bonjour Dominique de Villepin.
Bonjour.
Oh.
Écoutez, vous savez, je suis un admirateur du général de Gaulle. Et je pense que cela aurait été réciproque si le général de Gaulle avait eu la chance de me connaître. Je le dis haut et fort ici devant vous. Il faut tout faire pour sauver l'héritage patrimonial du général de Gaulle. Alors moi, le premier grand gardien de la conscience gaulliste, moi, le dernier rempart contre l'effacement de ce qui a fait la France, je ferai tout, madame de Malherbe. Oui, tout ce qu'il m'est possible de faire pour habiter la maison du général.
Pour habiter la maison, vous allez vous installer à Colombey-les-Deux-Églises?
Non, je parlais de l'Élysée.
Ah oui.
L'Élysée outragé, l'Élysée brisé, l'Élysée martyrisé, mais l'Élysée bientôt libérée et habitée.
Merci monsieur de Villepin. Le tournoi de Roland-Garros a donc démarré dimanche. Yannick Noah, bonjour. Alors bon, que pensez-vous des joueurs français?
J'ai paumé mes feuilles. Ouais, non, ça y est, j'ai retrouvé ma feuille. Il n'y en a qu'une qui est importante. Ça va, Pau? Ça dérange si j'enlève mes chaussures?
Non, pas du tout, vas-y.
Tu devrais le faire aussi, on est tellement mieux quand on vit pieds nus. Mm. C'est ce que je disais à Emmanuel Le Chypre. Écoute, Pau, tu veux vraiment qu'on parle des joueurs français?
Bah ouais, quand même, non?
Non, parce que franchement, ce matin, on est cool, on s'est réveillé de bonne humeur, vois, il fait beau. Mm. Le ciel est bleu, donc évitons tout ce qui peut générer de l'énergie négative ou même de la tension dans les trapèzes, tu vois.
Même.
Parle-moi d'autre chose que des joueurs français.
Mais vous, Yannick Noah, vous voulez pas parler de des joueurs français? Vous voyez pas un Français l'emporter cette année?
Arrête, Apo. Là, t'es en train de me boucher un chakra. Va falloir encore que j'écoute des chants de baleine. Non. Si vraiment tu veux que je te dise un truc positif sur les joueurs français, oui. Je pense qu'ils peuvent aller très loin en deuxième semaine. Par exemple, à Punta Cana ou au Maldives. Après, ça te fait sortir dès le premier tour.
Allez, merci Yannick. Ça, ouais, c'est vrai qu'on était bien là. Le ministère de la Culture a refusé l'aide financière du Puy du Fou pour restaurer le château de Chambord. Rappelons que l'histoire doit être racontée comme un récit et non comme un roman. Philippe Devilliers, tiens, vous vouliez réagir, autre ambiance.
Oui, c'est pas le même genre, la maison. Ouais. De salles, deux ambiances. Attendez, au Puy du Fou, nous avons toujours strictement respecté la vérité historique. Et là, pour Chambord, je comprends pas, ça aurait été pareil. On aurait raconté comment 1515, suite à l'appel de Saint-Louis, Jeanne d'Arc et Charlemagne ont défendu le château de Chambord face aux hordes de Mahométans venus, comme vous le savez, des quartiers nord de Marseille.
C'est un peu revisité quand même.
Comment ça revisité? Moi, sachez que sur CNews, d'abord, quand je parle, on m'écoute et on m'interrompt pas. D'accord, okay.
Ça bref, va bien se passer là encore.
Pour, je reviens à Chambord. Chambord, c'est important, Chambord.
Bien sûr.
Chambord, c'est important. Mais des fois, je bug. Je comprends pas. Chambord, tout était prêt. Un magnifique spectacle qui a raconté comment 1492, sur demande de Napoléon III.
Oui.
Et avec la bénédiction de Clovis, Léonard de Vinci et le grand Gustave Eiffel ont conçu une machine permettant de renvoyer chez eux les terroristes algériens sous le QTF. C'est une sorte de comment vous dire, de catapulte géante, ouais. Ouais, que vous armiez comme ça, ouais, vous mettiez un migrant dedans, ouais, ouais. Et hop, donc, direct au bled.
Je comprends mieux quand même pourquoi le ministère de la Culture a décliné votre offre.
Mais au lieu de ça, le ministère de la Culture a préféré quoi, hein? Il a préféré demander l'aumône aux monarchies islamiques du Golfe Persique, c'est ça? Donc il préfère l'argent du Qatar au Cato, c'est ça, hein? Allez, c'est l'heure des GG avec Marshall et Truchot, même si je sais que le Marshall lui aussi aimerait bien catapulter le Truchot.
Merci Nicolas. Pas 50 jours pour retrouver demain à 8h50 sur RMC. Alain Marchal est rentré dans ce studio. Quel est le programme maintenant?
On a un duel de Consigny aujourd'hui dans les GG. La comédienne Anne Consigny face à son neveu Charles Consigny. La comédienne Anne Consigny a signé la tribune anti-Bolloré, anti-Canal. Charles Consigny, lui, trouve ça incroyable que sa tante puisse faire ça. Eh bien, ils vont débattre en famille à la table des GG dans un instant. Entre autres, et puis on aura entre-temps reparlé de la canicule, des naufragés du TGV, des plans climatisation pour les écoles. À tout de suite au 32-16.